Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans le numéro 114 de Famille, Justice, Enfance sur RLP, Radio Libre en Périgord 102.3. Aujourd'hui, dans cette émission, nous aurons comme invité principal Monsieur Alain Bourregba. Monsieur Bourregba est psychologue, psychanalyste, maître de conférences à l'Université Paris 5 René Descartes, directeur de la Fédération des relais enfants-parents à Montrouge, conseiller technique auprès des services de la protection de l'enfance du Conseil général des Hauts-de-Seine et chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Bourregba est un auteur qui a énormément travaillé sur les liens parentaux entre détenus et leurs enfants, ainsi que sur les troubles de la parentalité. Il a d'ailleurs écrit « Les troubles de la parentalité, approche clinique et socio-éducative » aux éditions d'Uno en 2020, ainsi que « L'enfant et son parent, l'histoire d'une empreinte » toujours chez d'Uno en 2011. Les liens familiaux à l'épreuve du pénal aux éditions RS. Monsieur Bourregba nous a fait l'honneur d'une interview. Vous comprendrez en l'écoutant qu'il a fourni énormément d'efforts. Il est à la fois peu disponible et surtout il est atteint d'un certain nombre d'incapacités qui font que sa parole est rare. Mais sur RLP, aujourd'hui, nous avons une exclusivité et nous aurons le privilège d'avoir ses réponses à nos questions. Mais tout d'abord, les actualités, ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Maxime Wine a donc passé 2 semaines en haut d'une grue à Alluin dans le Nord. Le schéma est désormais habituel. Il est accusé d'avoir été violent. La mère ne veut pas qu'il voie ses enfants. Il n'y a aucune preuve, aucune condamnation. Mais il ne les a pas vus depuis maintenant 4 ou 5 ans parce que c'est visiblement la parole contre-parole, et dans ces cas-là, on vous prive de vos enfants. Voici à ce sujet l'interview du maire d'Alluin, Jean-Christophe Détailleur.
Ce que je puis vous dire, c'est que nous avons un personnel de grande qualité, notamment des psychologues, les services de la police qui sont en train de gérer cela, car nous souhaitons éviter absolument un drame, que cette personne se suicide. Mmh. Il s'agit vraiment d'une séparation extrêmement douloureuse. La maman ne souhaite pas reprendre contact avec ce monsieur, et ce monsieur serait responsable de gestes violents. Donc vous voyez que c'est un dossier très 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 complexe. Une ville telle que la nôtre ne peut pas gérer cela. Nous faisons totale confiance aux RAID, aux équipes de police, et surtout aux équipes médicales spécialisées pour tenter de convaincre ce monsieur de descendre de la grue, car nous voulons à tout prix éviter un drame. Notre commune de 21 000 habitants, bien évidemment, ne peut pas agir directement. Ce sont donc les services médicaux et de police qui prennent en charge cela. Je crois que ceci doit être traité uniquement par des gens habilités à gérer ce type de situation extrême. Voilà.
Heureusement, tout est bien qui finit bien et Maxime est redescendu de sa grue. Espérons que ceci lui permettra d'avoir au moins un accès à ses enfants.
En bref, le père qui avait passé 11 jours en haut d'une grue à Alluin est sorti de garde à vue cet après-midi. Selon Lille Actu, il est convoqué au tribunal le 9 mars prochain pour menace de mort sur un policier et dégradation dans la grue. L'homme qui avait fait ce geste, c'était pour retrouver ses 2 filles qu'il n'a pas revues depuis 4 ans. Il proteste notamment contre le système judiciaire, responsable selon lui de la perte de la garde de ses enfants.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Actualité toujours. Durant l'été, la France a publié, avec plus d'un an de retard, sur le calendrier fixé par le Comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies, l'État français vient de rendre son 6e rapport périodique sur la situation des droits des enfants en France. Alors dans ce rapport, il y a beaucoup d'autocongratulations et la France se présente comme un pays modèle. Mais une fois fini la lecture, il est permis d'être quelque peu déstabilisé, voire démoralisé. La protection de l'enfance englobe dans notre pays 8 milliards d'euros par an pour un, disons-le, piètre résultat, car il faut quand même constater le désastre de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, l'encombrement des juges aux affaires familiales et des tribunaux pour enfants, l'absence de mise en œuvre des mesures prescrites par faute des moyens indispensables, les délais d'attente de prise en charge en pédopsychiatrie et en CMP, l'augmentation inquiétante du harcèlement scolaire et des violences sur mineurs, et tout simplement le non-respect des clauses signées par la France au CIDE, Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit que les liens parentaux, les droits parentaux entre les enfants et les parents doivent être protégés par l'institution. Alors, 8 milliards par an pour obtenir à ce que nous vivons actuellement, cela fait quand même un peu cher. Nous noterons quand même que notre pays a fait l'allongement de la durée du congé de paternité et promet de protéger nos petits, un jour, peut-être, éventuellement, de l'accès, l'exposition au contenu à caractère pornographique, dont on attend toujours le blocage des multiples sites accessibles aux enfants, même à travers les filtres parentaux. Nous rappelons que la France, qui a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, en 1990, est rentrée en 2020 dans le cycle d'examen du respect de ses engagements par ce comité. Et ben voilà, maintenant, il faudrait peut-être respecter ce qu'il y a dans ce traité.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
RLP 102.3, aujourd'hui avec Alain Bourekba. Alain Bourekba, psychologue clinicien, maître de conférences en psychologie sociale, Université de Paris 5, René Descartes, psychologue, psychanalyste, directeur de la Fédération des relais enfants-parents à Montrouge, conseiller technique auprès des services de la protection de l'enfance du Conseil général des Hauts-de-Seine, qui a beaucoup travaillé et écrit sur la problématique du lien de l'enfant et du détenu, notamment. Monsieur Bourekba, vous allez bien ?
Bien, très bien, merci.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce que c'est bien vous ?
C'est bien moi, si ce n'est que j'ai aussi des études de philosophie.
Oui.
J'ai fait des études de philosophie, je tiens beaucoup à ça.
D'accord. Donc vous êtes auteur de 4 livres, Les liens familiaux à l'épreuve du pénal, La protection de l'enfance aux éditions Dunod, et puis L'enfant et son parent chez Dunod aussi en 2011, et Les troubles de la parentalité en 2020 aux éditions Dunod. Toujours Dunod, tout à fait.
Alors,
ok. Alors, ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais que vous me expliquiez, parce que vous avez fait un très grand travail intellectuel sur cette question-là, quels sont les incidences sur l'enfant des séparations parentales lorsqu'un enfant n'a plus accès à ses parents ? Qu'est-ce que ça signifie pour lui ?
Ça signifie, socialement, quelles que soient les conditions de la séparation, ça entrave le processus de séparation naturelle. Tout est entrave au contact avec votre parent, entrave finalement le processus de séparation naturelle. C'est-à-dire que le grandir, c'est se séparer. Et se séparer, c'est normal. Et quand c'est provoqué de façon réelle et précocement dans la vie de l'enfant, ça l'empêche d'arriver à son terme, ce processus de séparation. Finalement, c'est un paradoxe. Plus on sépare, plus on parle d'éloignement, plus de séparation, et plus on éloigne l'enfant de son parent, plus il devient difficile de s'en séparer psychiquement. C'est ça le grand paradoxe. Tomber à des snows, écrit tout ça, mais sont fabuleuses en disant, plus tu t'éloignes, plus ton enfant s'agrandit, mais c'est exactement ça. Plus un parent s'éloigne, plus son enfant se grandit dans l'esprit de son enfant, et plus cette tombe est grande, plus en plus l'enfant est invité à ne pas dire de choses, pas parler de son parent, plus cette tombe sera pesante pour lui, et finalement il aura beaucoup plus de mal à se séparer qu'il aurait eu de difficulté à se séparer physiquement son parent quand il arrive l'heure de l'adolescence. Voilà. Le principal, c'est l'éloignement provoqué tout dans la petite enfance. Ils vont surdéterminer l'importance du parent. Ils ne vont pas l'effacer, au contraire, ils vont surdéterminer.
C'est-à-dire, vous nous dites que si un enfant n'a pas accès à son parent, il va l'idéaliser un petit peu ? D'accord, en fait, ok. Il va rentrer dans des extrêmes, son imaginaire va prendre le pas, et il va en avoir soit une version idéalisée, soit une version diabolisée.
Absolument, ça. Une version diabolisée, il ne va pas rien faire. Il aura la cause de son malheur, cause essentielle de son malheur. S'il l'idéalise, il aura aussi une cause essentielle de son malheur.
Ça, c'est intéressant parce que ça rejoint un débat actuel. Vous dites que diaboliser un parent, en fait, dans son intellect, est-ce que c'est pas un peu le départ de ce qu'on appelle l'aliénation parentale ?
C'est le départ de l'aliénation parentale. C'est le départ. Des fois, on essaie de voir qu'un enfant est enchaîné à son parent. Tu ne vois pas ? Tu ne vois pas. Et puis, il est complètement enchaîné. Il est complètement déterminé. Le mouvement qu'il devine ou l'impression qu'il aura peut être tout à fait fasciné par ça. Justement, on on a éloigné l'enfant de ses parents. Et c'est ça qui est pas culturel. Par aujourd'hui, on parle beaucoup des violences faites aux femmes. Et le ministre était complètement insensé. La vue d'un enfant du salon dans le sens, c'est l'inverse, il faut dire. C'est grand temps, c'est pas un enfant de son parent. Mais on le détermine. Et là, on aura des enfants qui vont faire de leur père violent, soit un diable, soit un dieu. Dans le cas où ils le feront, devenir un dieu, ils reproduiront aussi. C'est moi, dans le cas où les enfants un diable, ils seront aussi acculés. Ils s'y trouvent l'importance dans leur esprit. Finalement, on va vers ce qu'on imaginait. Plutôt que de l'autre, l'enfant à l'emprise de son parent, on les place complètement dans l'emprise. Pas besoin de contact pour être en emprise.
Donc, je vais essayer de résumer ce que vous avez dit. Vous dites qu'en ce moment, on parle beaucoup des violences faites aux femmes, mais qu'on oublie que priver un enfant d'accès à ses parents est aussi une violence. C'est bien ça que vous avez dit.
Bien sûr.
Voilà, parce qu'après, il va avoir une relation à son parent qui sera imaginaire et ce sera une cause de mal-être. D'accord. D'ailleurs, comment se fait-il qu'un criminel en prison, qui a encore des droits parentaux, on a l'impression que parfois qu'un détenu à la prison a plus de droits pour voir ses enfants et avoir des informations sur ses enfants qu'un parent qui divorce mal? À votre avis, ça vient d'où, ça?
Ça vient de ce que la situation pénitentiaire, conscience et rupture familiale.
L'administration pénitentiaire a conscience de l'importance de ce lien-là et cherche plus à le protéger, en fait, que le reste de...
Bien sûr. On est conscient qu'il n'y a pas de réparation. La détenue, ça ne sert pas en tant que parent. C'est la première responsabilité qu'on a, c'est la responsabilité des proches. Ensuite, on peut avoir la responsabilité plus importante du quartier, de la communauté, ensuite vers le pays. C'est la responsabilité beaucoup de relations entre parents. Et quand un homme est responsable de ses enfants, il y a un citoyen en devenir. Ça s'était bien compris par les Américains, même Bush, qui voulait financer des programmes d'aide au maintien des relations familiales, alors qu'en même temps, il avait trouvé l'aide de s'opposer à l'interdiction de la peine de mort chez l'enfant.
D'accord, donc vous dites en fait que le système pénitentiaire sponsorise d'ailleurs et fait des dépenses pour maintenir les relations parentales entre les détenus et leurs enfants, alors que dans le même temps, les tribunaux, eux, ont plutôt tendance à couper ces relations, c'est ça?
C'est dans l'importance du lien pour la réinsertion.
Oui.
Aussi, le service social rend des gens meilleurs quand ils maintiennent leurs liens familiaux. Ils le sont à la sortie plus responsable. Sortir responsable de ces liens familiaux, c'est déjà être... Une situation ne devrait pas être en tant que citoyen. Ce n'est pas responsable, mais cet enfant ne peut pas être réparé en tant que citoyen. C'est au niveau de la socialité.
D'accord. En fait, on n'est pas assez responsable, on ne prend pas assez soin des liens familiaux, c'est ça?
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Alors, effectivement, c'est la question d'après. Nous, on a l'impression au niveau associatif que les droits parentaux, parce qu'en fait, les droits parentaux, c'est le droit, ça marche dans les deux sens, hein, c'est le droit de l'enfant à avoir accès à ses parents, c'est le droit du parent à accéder à ses enfants, n'est pas vraiment protégé par la société. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est pas du tout protégé, pas du tout protégé, non.
Vous avez dit pas du tout protégé, c'est ça?
Non, pas du tout protégé, pas du tout protégé. C'est une hostilité actuelle, c'est une famille, c'est une famille.
Il y a une hostilité par rapport au niveau de la famille, vous constatez?
Il y a une propos de Mme Borne, la ministre de l'Égalité entre les femmes. Extrêmement aberrant. C'est un scandale. C'est la loi sur tous les principes fondamentaux qui font notre éthique depuis deux millénaires. Ça, c'est vrai.
Ouais, vous critiquez Mme Borne et ses déclarations, effectivement.
Elle dit qu'il faut une glissade d'exception. Exception, c'était une glissade d'exception. Il n'y a pas lieu d'avoir une glissade d'exception. Puis, pourquoi serait-on mauvais à partir d'un acte? Bien sûr qu'il y a des parents condamnables quand il a rappelé son épouse. Bien sûr qu'il est condamnable quand il a fait ceci. Est-ce qu'on doit les déterminer à ne plus être capable? Non, parce qu'il a fait ça.
Pourquoi serait-on déterminé par rapport à un acte et pourquoi? Parce qu'on a fait quelque chose à un moment donné, on ne serait plus capable d'éduquer un enfant ensuite. C'est ça, en fait.
Exactement ça. On ne peut pas qualifier la personne à partir de ces actes.
On ne peut pas qualifier la personne à cause d'un incident.
Non, pas de ces actes. On est là tout condamnable, il doit être condamné et réprimé, mais on ne peut pas réduire la personne à ces actes. C'est une chose qui n'existe pas en incident. C'est le principe qui se distingue, si vous voulez. On ne peut pas réduire la personne à ces actes.
On ne peut pas réduire la personne à ses actes. En Occident, on ne fait pas ça. D'accord.
Non, on ne fait pas ça. La justice en Occident est votée sur la distinction qu'on fait entre l'acte et la personne. On juge la personne, on ne juge pas l'acte. On juge l'incapacité de la personne à adhérer à son acte. Et ça, c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on n'est pas dans une tradition de vengeance, la différence de la justice de vengeance, c'est ce principe-là. Et là, balayer tout ça, on vient de prononcer à ce principe sacré, c'est le principe de la justice en Occident, qui n'est pas la voie du talion, qui est une progression de la civilisation énorme. Et quand il dit qu'il y a des mauvais pères, on n'est pas mauvais pères. Tout le temps, on n'est pas mauvais père. Et puis, c'est pas nous qui est mauvais père, c'est l'enfant lui-même. C'est l'enfant de dire qu'il a mauvais père. On n'a pas le diapo nous. On n'a pas le diapo nous. Le diapo nous, c'est lui qui fait porter le poids d'une rancœur, de nos affectifs. C'est pas du tout comme ça qu'on fait. On est des enfants, c'est pas vraiment lui. en lui disant qu'il s'en fait mauvais. C'est en lui disant qu'est-ce qu'il a pu faire à tes parents, c'est en lui disant qu'il est mauvais. Tu vois, c'est ni l'ambivalence de l'enfant. L'ambivalence de l'enfant qui peut être très tendre chez son père, et en même temps, c'est en colère contre son père. Son père est mauvais. Et si lui a du sentiment vis-à-vis son père, son père est dans une situation dramatique, il a raison de solution, il a une bonne raison. Il a oublié qu'il a aimé son père, il nous étend, et il a raison à son père. Quelqu'un, on sait, on résout pour lui, on contraint simplement son ambivalence.
D'accord, donc si je comprends bien, vous vous dites que même si l'enfant est en colère contre son père ou qu'à un moment donné le père a eu des actes qui n'étaient pas forcément bons, il est scandaleux de rompre les liens entre un parent et un enfant, et inversement, ce qui correspond à ce que j'ai entendu ici lors de plusieurs intervenants. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez fait votre travail par rapport à des personnes qui, eux, se sont vraiment mal conduites pour de vrai parce qu'elles sont en prison. Et donc, nous, dans l'environnement des divorces, où parfois on a un problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas des droits de visite qui sont honorés, ou alors on a des dénonciations et autres, parfois on n'arrive pas à avoir les enfants, et vous trouvez ça scandaleux et vous trouvez que ce n'est pas à la société d'oblitérer les relations parentales. Voilà, d'accord.
Bon, quand elle le fait, c'est affreux, c'est affreux. On ne sait pas du tout où va ce genre de totalitarisme. Toutes les sociétés totalitaires ont été des nuages qu'on a la famille.
Ah, vous employez carrément le terme de société totalitaire vis-à-vis de la famille.
Bien sûr. C'est pas nous qui l'y a, ça c'est vrai, c'est intime. D'ailleurs, c'est pas toujours par lequel c'est lui considérer mon père comme mauvais, et un jour le considérer comme bon. C'est une évolution constante. C'est une relation intime.
On peut pas estimer qu'un parent, un père est bon ou mauvais, car c'est en évolution constante, c'est ça.
Bien sûr. Tout au long de la vie, on regarde son père charmant, et un jour on le considère bon, un jour on le considère mauvais. Puis c'est la vertu de notre pèlerinage. Et venu de le droit de dire pour nous qui était bon, qui était mauvais. C'est vraiment pas le pouvoir politique, c'est vraiment vrai.
Ok, monsieur Bourekba, je vais vous remercier. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait l'effort de nous consacrer un peu de votre temps. Votre parole est précieuse et elle est rare. Et je pense que tout le monde a compris que vous avez vraiment fourni un effort pour nous donner vos opinions par rapport à cette question. Est-ce que vous travaillez actuellement sur un nouveau projet, sur un nouvel ouvrage ? Le sur les soins psychiques, d'accord.
Quelle est la définition ? Quelle est la pertinence de ces questions ?
La définition d'un soin psychique. Okay. Toujours aux éditions RS ou chez Dunod ?
Probablement Dunod.
Très bien. Bah, écoutez, n'hésitez pas, lorsque ce ouvrage sera sorti, si vous voulez en faire un peu la promotion chez nous. Voilà. Très bien. Nous vous remercions beaucoup, M. Bourekba. Merci beaucoup pour votre parole. Merci.
Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance.
Longtemps j'ai cru que la marmaille, j'en voudrais jamais dans mes jambes, que j'endurerais jamais que ça braille, même en punition dans une chambre. Longtemps j'ai cru que la marmaille, y avait des filles faites pour ça, et qu'elle méritait des médailles, et j'étais pas de ces filles-là. Mais d'où me vient cette envie folle? Mais d'où me sortent ces idées-là? Cette passion des cours d'école, cet attendrissement que voilà. Je m'émeus devant les femmes enceintes qui magasinent les berceaux, qui ont les seins gros comme ma crête, d'avoir toute la marmaille à dos. Toutes mes certitudes s'écroulent, je veux de la marmaille. À moi je veux moucher les petits nez qui coulent, je veux mettre ça en pyjama. Je veux que ça crie, je veux que ça saute, que ça brise des matelas, et je veux que ça salisse des chaises hautes. Je veux de la marmaille. À moi. Je sais pas pourquoi, mais la marmaille, je croyais que ça m'aimait pas la face, que ça priait pour que je m'en aille. Quand j'arrivais dans leur espace, longtemps j'ai cru que la marmaille, j'en aurais jamais sur les bras, que j'avais ni le cœur ni les entrailles assez solides pour porter ça. Je m'émeus devant les femmes enceintes qui magasinent les berceaux, qui ont les seins gros comme ma crainte d'avoir toute la marmaille à dos. Toutes mes certitudes s'écroulent, je veux de la marmaille à moi, je veux moucher les petits nez qui coulent, je veux mettre ça en pyjama, je veux que ça crie, je veux que ça saute, que ça brise des matelas, et je veux que ça salisse des chaises hautes, je veux de la marmaille. À moi, je veux nettoyer les genoux qui saignent, je veux de la marmaille. À moi, je veux que ça boue, je veux que ça se plaigne, je veux emmener ça au cinéma, je veux ressusciter le Père Noël, je veux que ça y croit, je veux que ça attrape la varicelle, je veux de la marmaille. À moi, mon univers a basculé, je veux de la marmaille. À moi. Et c'est depuis t'es arrivé, je veux de la marmaille, je veux de la marmaille de toi.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas le groupe Facebook, Association Équité Parentale. Vous pouvez d'ailleurs nous envoyer vos actualités si vous en avez, que vous pensez qu'elles nécessitent ou qu'elles méritent d'être mises en avant. La semaine prochaine, nous accueillerons comme invité principal Monsieur Joël Clergé, qui a écrit plusieurs ouvrages fondamentaux et qui nous parlera notamment de la manière dont un petit garçon devient un papa, quel est ce processus entre ce nouveau-né et ce père qui apparaît. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien, soyez sages, à bientôt. Bisous, bisous, au revoir.
Famille, justice, enfance.